La France-Afrique, avec ses chefs, ses réseaux et ses moyens, est le grand malheur de l'Afrique et il est juste de se demander comment l'un des nombreux pays africains, le Togo, est tombé dans les griffes étouffantes et mortelles de la France-Afrique. La France entendait garder ses colonies après donc la Seconde Guerre mondiale, parce que ces colonies ont puissamment contribué à la victoire. Les peuples coloniaux, au contraire, et à juste titre, pensaient que l'heure avait sonné d'appliquer à tous les habitants de la terre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Très vite éclatent des conflits entre les colonies et la métropole. Nous avons la révolte de Sétif en Algérie, la guerre d'Indochine, l'insurrection de Madagascar, etc. Mais tous les territoires sous domination n'avaient pas le même statut. Par exemple, le Cameroun et le Togo, anciennes colonies allemandes confiées par la Cité des Nations à la France et à la Grande-Bretagne comme territoires sous mandat, deviennent, à la création de l'ONU en 1945, des territoires sous la tutelle de l'organisation internationale, mais administrés par les mêmes puissances européennes victorieuses, à savoir la Grande-Bretagne et la France. La charte de l'ONU prévoit en son article 76 que l'une des fins du régime de tutelle consiste à, je cite, « favoriser l'évolution progressive des populations vers la capacité à s'administrer elles-mêmes ou l'indépendance » compte tenu des aspirations librement exprimées des populations intéressées. Au Togo, les partis patriotiques et nationalistes vont mener une intense campagne de mobilisation populaire et demander à l'ONU, dès 1946, l'application de la charte au Togo, autrement dit donc demander l'avis des populations et donc tenir compte de leurs vœux. Plusieurs des missions de l'ONU seront envoyées au Togo. Sur le terrain, deux partis principaux occupent le devant de la scène. Le comité de l'unité togolaise, communément appelé CUT, de Sylvanus Olympio, qui réclame la réunification des deux Togo sous tutelle et leur indépendance totale. On veut quand même aller vite, mais il faut expliquer que à la suite de la Première Guerre mondiale, les anciennes colonies allemandes, conquises par la France et la Grande-Bretagne, ont été souvent divisées. Le Togo comme le Cameroun, une partie à la Grande-Bretagne et une partie à la France. La partie confiée à la Grande-Bretagne va être après unie à la Gold Coast, colonie britannique, pour devenir aujourd'hui le Ghana. Et la partie orientale, qui est le Togo français, va devenir indépendante sous le nom du Togo que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le CUT demande la réunification et l'indépendance. Et ce parti, il va sans dire, est farouchement combattu par l'administration coloniale. L'autre parti qui occupe le devant de la scène, c'est le Parti togolais du progrès, appelé PTP, de Nicolas Gruninski, fondé avec l'appui de l'administration coloniale et ayant son entier soutien. Bon, allons assez vite. Plaçons-nous à l'année 56. La mobilisation populaire, comme l'aspiration à l'indépendance, sont très fortes. Que décide de faire le gouvernement de la République française, le gouvernement de la 4e République? Couper l'herbe sous le pied des nationalistes et accorder une indépendance fantoche avec Nicolas Gruninski, l'homme de la France à la tête du pays. Alors, il est accordé au Togo ce qui était alors appelé la République autonome du Togo. Mais le peuple tourne en dérision la République autonome du Togo octroyé à M. Gruninski. Le CUT et ses partis alliés protestent à l'ONU qui se décide à organiser le 27 avril 1958 un vote des élections législatives au Togo. Débâcle du camp de l'administration. Gruninski et son parti perdent les élections. Le CUT de Sylvanus Olympio et ses alliés obtiennent 72% des sièges et le parti de Gruninski 7%. Les 21 restants allant à un parti de chef traditionnel, noyauté par l'administration coloniale. Paris ne peut plus s'opposer à une véritable indépendance du Togo, parce que dans le jeu togolais, il y a l'ONU, et effectivement, l'ONU ne peut pas ne pas tenir compte des vœux de nos populations. Et il faut noter, à ce niveau du récit, l'irruption en mai-juin 58 d'un nouvel acteur sur la scène politique française, Charles de Gaulle, farouche partisan de la colonisation, revient aux affaires après la guerre d'Indochine et à la faveur de la guerre d'Algérie. Que va faire de Gaulle, rappelé pour maintenir l'Algérie française dans un monde qui a beaucoup changé, décolonisé sans décoloniser, tout en décolonisant? C'est compliqué, me direz-vous. Voilà qui ouvre la voie, il faut dire plutôt des boulevards, à la France-Afrique. Et tout le drame que nous allons vivre va découler de cela. Comment accorder l'indépendance sans accorder l'indépendance?
Tout en l'accordant.
Voilà, tout en l'accordant. Tout le problème est là. Le Togo, rappelons-le, avait voté pour son indépendance le 27 avril 1958 sous la 4e République. Deux mois plus tard, il se retrouve sous la 5e République naissante avec Charles de Gaulle. La levée de tutelle puis l'indépendance ne pouvait subvenir qu'après un accord tripartite entre l'ONU, la France et le Togo. Alors, l'indépendance du Togo finalement est proclamée le 27 avril 60. Le Togo aspire, lui, à une indépendance totale, indépendance diplomatique. Ça signifie quoi? Ça signifie que, effectivement, ceux qui étaient à la tête du pays entendaient bouger sans demander l'avis de la France. Par exemple, le président du Togo allait en Allemagne, il allait aux États-Unis. Eh bon, il passait aussi en France, mais ces déplacements se faisaient sans l'accord préalable de la France, comme pouvait le faire n'importe quel pays indépendant. Mais effectivement, à Paris, cela était très mal vu. Indépendance économique. Effectivement, et au Togo existait une compagnie appelée Compagnie Togolaise des Mines du Bénin, mais qui n'accordait au pays que 1%. Alors, le nouveau régime, après l'indépendance, a acheté une part des actions et a porté la part du pays à 20%, et cela ne plaisait pas tellement aux actionnaires coloniaux qui étaient habitués à ne laisser au pays qu'1% des bénéfices. Et cela aussi était cause de conflits avec la France. Indépendance industrielle. Bon, dans la plupart des colonies, vous n'avez que la traite des matières premières de base. Alors, le Togo indépendant voulait quand même avoir une certaine indépendance industrielle. Et qu'est-ce qui est plus qu'important pour cela? C'est la maîtrise de l'énergie. Alors, le Togo s'est entendu avec la Yougoslave. À l'époque, la Yougoslavie encore existait. La Yougoslavie de Tito, pour construire une centrale électrique et pouvoir avoir donc son énergie et pouvoir avoir l'énergie donc à assez bas prix. Et cela aussi n'était pas de nature à plaire à Paris, parce qu'on devrait normalement tout demander à Paris avant de toute installation au Togo. Alors, indépendance financière. Si on compare le Togo avec un autre pays à côté, tel que la Gold Coast, enfin la colonie britannique, à l'indépendance, la Gold Coast avait des réserves dans sa caisse. Les Anglais avaient quand même laissé quelque chose avant de partir, mais le Togo à nous, à l'indépendance, avait des dettes à l'égard de la France. Plus d'un milliard de francs CFA de l'époque, des années 60, donc il faut multiplier par je ne sais pas quel facteur maintenant, et le Togo chaque année devrait payer sa dette. Le Togo payait la dette, mais un Togo qui ne tient pas la main était aussi mal vu à Paris. Ce qui a fait déborder le vase, c'est surtout l'indépendance monétaire. Le gouvernement du Togo de l'époque pensait que pour contrôler l'économie du pays, il fallait avoir sa monnaie. Et ça, il faut le dire, vraiment, à Paris, c'était pas très très bien vu. C'était pas bien vu du tout. Et ce qui va suivre va découler de là. Mais il faut aussi signaler une autre cause de conflit, c'est que le Togo, d'abord le Togo allemand, puis le Togo sous mandat français ou bien sous tutelle française, n'avait qu'un wharf. Bon, un wharf, si vous voulez, c'est une installation assez sommaire pour exploiter les matières premières. Alors, le Togo voulait construire un port. Or, voilà, un port en eau profonde. Or, à Paris, il était estimé qu'il y avait déjà un projet de port au Dahomey, enfin aujourd'hui Bénin, et que ce port devrait suffire pour satisfaire les besoins et du Bénin et du Togo. Donc la France s'opposait à la construction du port de Lomé. Alors Sylvanus Olympio, effectivement, bon, ne s'est pas fâché. Bon, c'est quelqu'un qui se fâche rarement, ouvertement. Il ne s'est pas fâché avec la France. Et il s'est adressé à l'Allemagne. Et l'Allemagne a accepté de financer le port de Lomé. Le projet était prêt, tout était accepté. Mais au niveau de la France, M. Olympio n'était pas très aimé parce que il ne voulait pas se soumettre au désir du gouvernement français de se contenter de l'unique port de Cotonou. Alors, avec le temps, effectivement, des documents ont été publiés et il n'est pas mauvais de savoir comment Jacques Foccart, par exemple, qui à l'époque s'occupait des problèmes africains à l'Élysée, hein, il était exactement secrétaire général des affaires africaines à l'Élysée sous De Gaulle, puis sous bien d'autres présidents français par la suite, et appréciait le monsieur Sylvanus Olympio. Bon, il parle bon, ici du passage de Charles de Gaulle au Togo en 1953. Il dit, je passe à Barthélemy Boganda. Bon, Barthélemy Boganda, député de l'Ougandie, Chari, Centrafrique, lui aussi va mourir après, quand son avion va exploser en vol. D'abord très réservé, puis chaleureux. Je pense davantage encore à Sylvanus Olympio, président de l'Assemblée territoriale du Togo, qui n'était pas de nos amis. Il a boudé le premier jour et il s'est affiché du côté du général autant qu'il a pu le lendemain. Bon, on voit par cette appréciation que, en fait, M. Foccart n'aime pas beaucoup M. Sylvanus Olympio. Ça continue dans toujours les entretiens de Jacques Foccart avec Philippe Gaillard, journaliste à Jeune Afrique. Le journaliste pose la question. Vous avez évoqué les coups d'État qui ponctue l'histoire des jeunes États africains. Le premier chef d'État qui a perdu le pouvoir et la vie par la violence, Sylvanus Olympio, avait remplacé Nicolas Gruevski à la tête du gouvernement du Togo après les élections d'avril 1958. Il avait conduit son pays tranquillement à l'indépendance. Quel souvenir avez-vous de lui? Alors je cite la réponse de Foccart. Nous avions des rapports plutôt froids. Je vous ai raconté comment, au cours du passage du général à Lomé en 1953, d'abord distant, pour ne pas dire plus, il était devenu presque chaleureux. Mes relations avec Olympio s'étaient alors améliorées, mais elles n'ont jamais été cordiales comme celles que j'entretenais avec Gruevski. Bon, Gruevski qui était effectivement l'homme de la France au Togo. Pour tout dire, je l'ai peu connu. C'était un homme de qualité, mais orgueilleux. Pas facile dans les contacts humains. Chef d'État venu du secteur privé, il attachait une grande importance à l'économie aux dépens des problèmes politiques, sociaux et d'unité nationale, etc. etc. Alors, il continue effectivement dans la même veine, mais effectivement, ici, ce qu'il faut dire, c'est que Olympio ne s'entendait pas avec Paris et au niveau du gouvernement français, on cherchait tous les moyens pour s'en débarrasser. Alors ici, allons au mois de juillet 1962. L'Algérie accède à l'indépendance. Les militaires togolais qui étaient partis combattre dans l'armée française reviennent. Il faut dire ici que, d'après le traité de Versailles, le Togo ne devait pas fournir des soldats pour aller combattre à l'extérieur. Mais souvent, ce qui se passait dans la réalité, c'est que cette disposition du traité de Versailles était contournée. On prenait les Togolais, on les entraînait, et après, on les dispatchait dans les armées recrutées dans les pays voisins. Ainsi, les Togolais étaient recrutés comme des Béninois, ils étaient recrutés dans l'armée française comme des Voltaïques, c'est-à-dire les gens du Burkina Faso actuel, ils étaient recrutés dans l'armée française comme des Ivoiriens, et effectivement, ils allaient combattre. Bon, l'ONU n'était pas très regardant. Hein, une fois qu'on dit que bon, ils n'étaient pas Togolais, on pouvait effectivement enrôler le Togolais et l'envoyer sur les champs de bataille. Donc, certains étaient recrutés pour aller combattre en Indochine, aller combattre le Viet Minh. Et après le Viet Minh, on les a repris, on les a envoyés en Algérie. Et quand la guerre d'Algérie fini en 62 avec l'indépendance de l'Algérie. Ils sont démobilisés et la France les fait revenir au Togo. Alors, revenu au pays, l'ambassade de France avec donc les services français les ont pris, ces militaires togolais, et leur ont dit, bon, maintenant, nous avons un gouvernement qui n'est pas très obéissant. Si vous arrivez, si vous nous aidez à nous en débarrasser, bon, vous-même, vous prenez le pouvoir et vous pouvez régler vos problèmes beaucoup plus facilement. Et ainsi, ces militaires ont été pris en main par les services français. En l'occurrence, il y avait donc à Lomé un certain commandant Georges Métrier, qui était le cerveau opérationnel de ce problème, le commandant Georges Métrier, donc commandant français, qui avait dirigé la répression au Cameroun, principalement en pays Bamileke, et il a pris ses militaires et bon, il les a soudoyés pour faire un coup d'État. Alors, le coup d'État a eu lieu le 13 janvier 1963. Bon, il faut ici s'arrêter et dire quelques mots de ce coup d'État. Quand le coup a commencé, en réalité, le coup avait pratiquement échoué. Il était entendu, du moins au niveau des services français de l'époque, que ces militaires devraient faire le coup sans que la France apparaisse trop. Mais le coup ne s'était pas déroulé comme on l'avait prévu. Les militaires étaient partis pour abattre le président chez lui deux fois de suite. Ils ne l'avaient pas trouvé. C'est alors que la main invisible a dû se faire voir. De quelle façon ? Presque à 2 heures du matin, l'ambassadeur de France, M. Henri Mazoyer, téléphone à l'ambassadeur américain pour lui dire qu'il pense que le président doit être caché chez lui dans le jardin de l'ambassade, puisque la maison du président est contiguë à l'ambassade américaine à Lomé. Effectivement, l'ambassadeur, réveillé à 2 heures du matin, va à son ambassade, il fouille et trouve le président caché dans un véhicule. Il retourne à sa résidence, il téléphone à l'ambassadeur de France, qui est le doyen du corps diplomatique, qui était le doyen du corps diplomatique à l'époque, lequel ambassadeur, une fois informé, contacte le commandant Métrier, lequel informe évidemment les mutins, et ils reviennent une troisième fois. Les mutins reviennent donc une troisième fois, ils entrent dans l'ambassade, ils capturent le président caché dans le véhicule, ils le font sortir. Et dès que le président sort un peu de l'ambassade, on tire 3 coups de feu sur lui et il s'écroule mort. La voie est ouverte maintenant pour la France-Afrique. Ces militaires-là font semblant de ne pas trop s'intéresser au pouvoir. Ils installent M. Grunitzky à la tête du pays, mais ce dernier n'arrive pas à satisfaire entièrement Paris. On négocie, Grunitzky se met à l'écart. Et l'un des militaires qui avait participé au coup du 13 janvier prend la direction du pays. Il s'appelle Nyasimbe Etienne Eyadema. À l'époque, il était sergent, mais par la grâce de la politique, il s'est vite promu général d'armée et il est toujours à la tête du Togo. Alors voilà comment le Togo est tombé dans les griffes de la France-Afrique. Si on veut comparer, par exemple, le cas togolais avec, par exemple, le cas du Cameroun. Bon, disons que dans le cas camerounais, il y a eu une répression vite déclenchée pour qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que quand, en 58, la France a été surprise par le vote qui a conduit les nationalistes au pouvoir au Togo, oui, elle a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élection au Cameroun. Ainsi, on a pu installer M. Ahiyo, qui a fait le travail de la France-Afrique. Mais au Togo, cela n'a pas été le cas. M. Olympio, qui a gagné en 58, a été quand même au pouvoir quelques 2 années. Et après, les France-Africains sont arrivés et nous vivons cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, avec le temps, effectivement, et des documents se publient et il y a Alain Perfit, qui a considéré comme confident de Gaulle et qui nous a livré la réaction de Charles de Gaulle et 3 jours après l'assassinat de Silvanus Olympio. Que dit de Gaulle? Et rapporté par M. Alain Perfit dans ses livres, c'était de Gaulle tome 2. M. Perfit raconte, donc je cite, il rapporte les propos de Gaulle. Ce pauvre Sylvanus Olympio était matois. Il voulait jouer au plus fin. C'était un homme d'une île verte. Il s'appuyait sur les Anglais. Il avait grandi dans l'opposition à la France. Une fois arrivé au pouvoir contre nous, il avait affecté de ne pas vouloir d'accord avec nous. Puis, voyant que ça lui était difficile de se maintenir sans notre aide, il a voulu un accord, mais sans en avoir l'air. Il lui fallait tromper tout le monde. Naturellement, il a été puni par où il a péché. Il a cru, à la différence de toutes les autres républiques africaines, que ça irait beaucoup mieux sans les Français. Si les troupes françaises avaient été là, il serait encore au pouvoir et en vie. Enfin, c'est ce que Perfit rapporte comme propos de Gaulle. Mais ce que de Gaulle ne dit pas à Perfit, c'est que les opérations ont été conduites par le commandant Métrier, lequel commandant Métrier donc était un gendarme français attaché militaire au Togo comme directeur de cabinet du président Sylvanus Olympio, et qu'une fois le président Olympio assassiné, il a été muté au Gabon, et de commandant, il était devenu lieutenant-colonel. Ce qui quand même montre que au niveau des services français, il n'était pas, on ne le considérait pas comme ayant fait une faute au Togo. Donc, voilà comment les militaires sont arrivés au pouvoir, comment M. Yadema a pu prendre la direction du Togo et depuis 1967. Et il est toujours là, il promet de partir, mais il ne part jamais. Quand on fait les élections, il perd, mais il se maintient. Par exemple, en 1998, il y a eu l'élection présidentielle organisée avec la supervision de l'Union européenne. Monsieur Yadema a été battu et quand il s'est rendu compte que le dépouillement du scrutin tournait à son détriment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout arrêté. Hein, il a renvoyé la délégation de l'Union européenne. Il s'est proclamé vainqueur avec plus de 52% des voix. Bon. Beaucoup de pays ont été très hésitants pour reconnaître sa victoire, mais à l'Élysée, cela n'a pas tardé. Et on lui a donné la bénédiction qu'il faut et il s'est maintenu. Alors, quelques 5 ans plus tard, nouvelle élection présidentielle, M. Yadema est encore battu, mais même avant que la Cour constitutionnelle ne proclame les résultats, au niveau de l'Élysée, on envoie un message de félicitations et de soutien à M. Yadema. Donc, le Togo, depuis 1963, vit dans les griffes de la France-Afrique. Il est reconnu que le pays a beaucoup décliné. Les conditions économiques et sociales sont parmi les pires et les pires d'Afrique. Et quand la PNUD fait son classement, le Togo est rangé dans le dernier quart inférieur. Mais, bon, M. Yadema n'entend pas quitter le pouvoir. Et quand Chirac était passé à Lomé en 99, il avait promis ne plus faire de nouveaux mandats, autrement dit quitter le pouvoir après son mandat de 99. Mais il s'est maintenu. Au dernier moment, il a révisé la constitution et il se maintient. Et maintenant, il peut se présenter autant de fois qu'il veut jusqu'à ce qu'un jour la mort l'enlève de la tête du Togo. Et ainsi va le Togo actuel avec la France-Afrique. Et alors, ce que nous demandons, c'est que effectivement, s'il y a quelque chose à faire, évidemment, nous les Togolais, nous menons la lutte avec nos faibles moyens, mais nos amis démocrates, nos amis de survie, nos amis qui veulent effectivement que l'Afrique avance, ce qu'ils peuvent exiger, c'est qu'il y ait quand même des élections démocratiques, transparentes en Afrique et au Togo, pour que nous puissions quand même nous débarrasser de nos dictateurs.